10. Les choses au pis. N'aurai-je jamais de repos? Quoi? Toujours de nouveaux troubles? Jacques-Auguste de Thoux. Toute la situation partait en couille. Le héros n'en avait guère plus à nous apprendre que ce qu'il venait de dire, mais la nouvelle secoua joliment la compagnie. Chose étonnante chez ces batailleurs qui sortaient d'un abattage pour le plaisir, les mines se firent graves, voire effrayées. C'était à se demander ce qui les inquiétait le plus, d'une offensive barbare qui les prenait complètement au dépourvu, ou du courroux d'une grande dame qui risquait de revenir leur tirer les oreilles. Ceci dit, je dois avouer que je n'en ai pas large non plus. Si l'évasion de l'ex-duchesse était confirmée, Clarissima serait folle de rage et je craignais d'être le premier à essuyer sa mauvaise humeur. Loin de se serrer les coudes, notre troupe connut aussitôt des dissensions. Les hommes d'armes bromallois se mirent à regarder de travers les mercenaires ou romans, qui n'attendaient qu'un signe pour se ruer sur le campement de Kimark. Le connétable voulait en apprendre davantage et résolut de regagner le camp ducal en quête d'éclaircissement. Mais Fitzganlon, qui craignait de perdre une occasion de faire du butin, refusa de le suivre. Il préféra prendre la tête de ses soudoyers pour participer à la curée dans le camp comtal. Toutefois, il ne parvint pas jusqu'à la barrière. Sur le pré de Lindinas, les chevaliers de Bellestance, effarés par la façon dont le tournoi dégénérait, avaient cessé le combat et battaient en retraite vers le camp ducal. Leurs adversaires accrochèrent alors les hommes du grand bâtard et une nouvelle mêlée éclata en plein champ, dont on ne savait plus trop si elle relevait encore du pas d'armes ou s'il s'agissait d'un acte de guerre. Cette prise de bec, ce n'était pas mes oignons. Et j'estimais que je m'étais suffisamment mouillé pour la journée. Aussi, je suivis sagement Anaro de Traval et sa bande. En plus, j'avais un sale arrière-goût en bouche. L'impression d'avoir fait à moitié le boulot. Quand même, je lui avais logé une lame de 2 bons empans en plein coffre, le Vaumacel. Qui pouvait survivre à un coup pareil? Normalement, personne n'aurait pu s'en relever. Normalement. Et pourtant, il avait tenu drôlement longtemps après avoir reçu sa boutonnière, le dur à cuire. Si on me demandait des comptes, qu'est-ce que j'allais raconter? Que je l'avais tué à moitié? J'allais me faire recevoir si je sortais ce couplet. En plus, avec la redescente qui suit un engagement, mes blessures se mettaient à me travailler assez aigrement. En attendant de pouvoir faire examiner mon dos, j'inspectais l'état de mes mains. La droite portait un gros hématome. Le gantelet avait plusieurs plates tordues, mais m'avait bien protégé de l'épée de Vaumacel. Ma pogne gauche, en revanche, était zébrée d'une 10aine d'écorchures qui rayonnaient à partir de l'auriculaire et de la tranche de la paume. On aurait cru que j'avais collé une mandale à une pelote d'épingle. Et ça me chatouillait aussi fort que le coup de hache encaissé dans la dossière. Ces égratignures étaient d'autant plus saugrenues que le gantelet gauche, quant à lui, était intact. Même la doublure de peau qui amortissait les chocs ne comportait pas le moindre accroc. Alors que nous approchions de la barrière du camp ducal, nous fûmes rejoints par la troupe de Bellestance qui retraitait d'un air aussi déconfit que le nôtre. Un chevalier dont le harnois luxueux et la cotte d'armes richement galonnée paraissaient peu éprouvés par les combats fendit les rangs dans notre direction. Il avait ôté son haume, ce qui dévoilait un visage jeune et fier, assombri de colère. Son blason représentait un cygne en train de nager sur une onde aux jolies vaguelettes. Comme celle de Lanval, ses armoiries étaient marquées par une sorte de barre crénelée qui signalait le fils d'un grand seigneur. « Cyranaro, que signifie cette vilénie ?» se récria-t-il. « Je n'en sais pas plus que vous, Sir Gingamor. Il paraît que nous ne sommes point à l'origine de la félonie. » Le duc a été averti d'événements que nous ignorons. Il nous en instruira.
Mes frères se sont moqués de nous, cousin, ajouta Lanval. Pendant qu'ils nous attiraient ici, ils ont libéré la ci-devant duchesse.
L'étonnement succéda à l'irritation sur les traits aristocratiques du dénommé Gingamor. Je perçus aussi un mouvement d'humeur chez le connétable.
Anaro de Traval paraissait mécontent que Lanval ait livré ce renseignement sans réfléchir. Le grand officier avait donc fourni à dessein une réponse vague. Il me fallut peu de temps pour additionner deux et deux. Manifestement, Guingamore était l'un des fils du comte de Bellestance. Or, je me souvenais des hésitations de Cesarino à faire relâche dans ce comté. Les Bellestance ayant eu des liens avec la duchesse répudiée. Le connétable doutait donc de l'allégeance de ce compagnon d'armes. Au moment de franchir les lys qui délimitaient le camp ducal, je m'attardai brièvement pour jauger l'évolution des engagements. Sur le pré, le grand bâtard et ses mercenaires avaient gagné un peu de terrain sans réussir à percer la résistance du banc de la Claye. Plus loin, les affrontements piétinaient sur le pourtour du campement de Kimark. La plupart des troupes bromaloises semblaient formées de milices bourgeoises et de sergents d'armes de l'hôtel ducal. Les assaillants avaient franchi la barrière, mais ne progressaient guère à l'intérieur du camp. Seuls quelques pavillons semblaient pris, une ou deux tentes s'affaissant au milieu de la bousculade. Vu de loin, l'offensive paraissait nettement moins impétueuse que le début du tournoi ou le corps à corps sous les murs du château. Bien qu'elle eût l'avantage du nombre, l'infanterie bromaloise manquait de cœur au ventre. Ses combattants réprouvaient sans doute l'ordre qu'ils exécutaient, tandis que les hommes d'Anguzel, révoltés par la rupture des codes chevaleresques, devaient se défendre bec et ongle. Une fois rentré au camp, mon premier mouvement fut de regagner le pavillon de l'ambassade. Je souhaitais vérifier que Cesarino s'y trouvait toujours, en un seul morceau de préférence, et j'aurais voulu me débarrasser de l'armure pour faire examiner et panser mon échine. Pourtant, je n'en fis rien. Je suivis Lanval, le connétable et ses bannerets, qui se rendirent tout droit dans les quartiers du Caux. Les événements avaient pris un tour si alarmant qu'il me paraissait crucial d'apprendre au plus vite de quoi ils retournaient. Rien de pire pour une armée que d'être victime d'une surprise. En moins d'une heure, le désastre pouvait être complet. Si je voulais garder quelques cartes en main, il était vital que je me tienne au parfum. Peut-être faudrait-il parer au plus pressé pour assurer la sécurité de mes collègues ambassadeurs. Voire, en mettant les choses au pire, pour sauver la mise à ma bonne amie Clarissima. Une grande agitation régnait à l'intérieur du campement bromalois, une effervescence qui sentait déjà la fièvre obsidionale. Les gens couraient en tous sens, lançaient des ordres concurrents, posaient des questions sans réponse. Les valets d'armes qui ramenaient des prisonniers ou des chevaux capturés se heurtaient à des pelotons d'hommes de guerre montant à l'assaut. Ce remue-ménage martial s'empêtrait dans l'affolement des civils. Tout un menu peuple d'artisans, de batteleurs et de camelots était en train de plier bagages. Des grandes dames et des ecclésiastiques se hâtaient vers les tentes où la valetaille faisait les malles. Chartiers et muletiers rassemblaient une ribambelle de bêtes pour louer leur service aux foireux sur le point de prendre la poudre d'escampette. Au milieu de ce chambardement, un trio retint cependant mon attention. Trois silhouettes en robe noire se distinguaient par leur immobilité. Les prêtres du desséché paraissaient méditer ou prier juste derrière la barrière, en contemplant les engagements en cours. Roides comme des statues, ils inspiraient un malaise aussi fort que tout le tremblement qui tourbillonnait autour d'eux. La confusion générale venait toutefois se briser sur le grand pavillon du Cal, telle la houle sur un récif. Les piquets de garde avaient été doublés autour de la tente, qui paraissait à présent aussi solidement défendue qu'un poste de commandement sur le champ de bataille. La plupart des chevaliers de retour du pré se firent refouler à l'entrée. Je fus du nombre. Ganelon ne voulait parler qu'aux membres de son conseil privé. Dans notre compagnie, seuls le connétable et Lanval furent admis à l'intérieur. Je ne cherchais pas à me faufiler sur leurs talons. Cela aurait été difficile et ne m'a paru pas nécessaire. Il suffisait de s'incruster parmi la cohue qui, malgré la pluie, piétinait autour des quartiers du Caux. Pages, valets et écuyers de l'hôtel ducal ne manquerait pas de commettre des indiscrétions qui fuiraient rapidement hors de l'entourage du suzerain. Je n'eus même pas à user de cet expédient. À peine repoussé par la garde, je fus interpellé par Cesarino qui se frayait lentement un passage vers l'entrée du pavillon. « Ah, Don Benvenuto, quelle bonne fortune !» s'écria-t-il dans notre langue. « Je craignais que vous n'ayez pris un mauvais coup. Suivez-moi donc, le duc m'a convoqué. » Pour ma part, je fus également soulagé de retrouver le patrice. Au moins, il n'était pas retourné sur la lisse et n'avait plus couru le risque d'être défait et pris. Vu le tour qu'avaient pris les hostilités, une capture aurait peut-être coûté plus cher que le versement d'une simple rançon. « Et le sénateur Skernitore, où il est ?» demandai-je à son collègue. « Eh bien, au cas où, il se prépare à mettre en lieu sûr la correspondance diplomatique. »« Je vois, il est fin prêt à déguerpir avec ses reconnaissances de dette. » Cesarino me répondit par un sourire en coin. Grâce au neveu du podestat, je fus donc finalement admis dans le sein des saints. Derrière le double rideau formé par la garde et par d'épais rabats, la salle centrale du pavillon possédait le volume et le luxe d'une chapelle fastueuse, entièrement habillée de tapisseries et de brocarts. Il y régnait toutefois une atmosphère crépusculaire qui n'inspirait rien de bon. À peine étouffés par les cloisons de toile, nous parvenaient les éclats éloignés des combats et le grondement voisin de la foule. À ces rumeurs venait s'ajouter à peine audible le tambourinement mat de la pluie sur le haut ciel de tente. L'humidité qui imprégnait ce palais de toile brouillait la lueur des brasières et des lampes en vagues halo. On baignait dans une atmosphère de buanderie. L'espace d'un instant, j'eus l'impression déconcertante de me retrouver dans le carrosse d'une immense galéasse que menaçait une nouvelle tempête au large de Mélesme. Il n'y avait pas grand monde dans cette nef embuée. Certains membres du conseil faisaient défaut, probablement parce qu'ils se trouvaient sur le terrain. Je reconnus Échivard de Maginois et Rinfroid du Trèfle, en costume de cour. Le chancelier Djatchekrimen se tenait un peu avachi sur un faux-desteuil, l'air épuisé. Au milieu du pavillon, entouré d'une meute de chiens énormes, le duc se faisait armer par deux écuyers. Ils achevaient de sangler deux canons de bras d'un harnois splendide, dont le plastron et les spalières étaient niellés aux armes de Bromel, une rencontre de cerf héliophore. Sur l'acier sombre, la tête de cerf se trouvait incrustée en argent et le soleil de Léomance qu'il portait entre ses andouillés resplendissait d'or. Ganelon attendait patiemment qu'on eût achevé de l'équiper. Son calme contrastait avec l'agitation qui avait été la sienne lors du premier conseil où je l'avais rencontré, à Carwell. Cette tranquillité était cependant plus inquiétante que l'irritation de naguère. Le suzerain serrait les dents, l'œil noir et la tempe battante. Il étouffait d'une rage rentrée qu'il distillait en colère froide. Les matins qui lui tenaient compagnie avaient d'ailleurs l'air nerveux. Ils sentaient la crispation de leur maître, et cherchant l'origine de la menace, grondaient sourdement à l'entrée de tout nouveau venu. Sans se laisser impressionner par ce tableau, le connétable interpella le duc sitôt en sa présence. « Votre Altesse, que signifient ces bouleversements ?» Exceptionnellement, il avait vouvoyé son vieux compagnon, mais il était difficile de savoir si ce formalisme exprimait une marque de respect ou une prise de distance. « Il signifie que je suis mal servi à Naro, » répondit le duc sur un ton glacial. Regardant le connétable droit dans les yeux, il ajouta « N'était-ce pas sous ta garde que j'avais placé Odéarde ? Quelle est donc cette rumeur d'évasion ? Et en plus tu as le front de me le demander !» Les deux écuyers qui avaient achevé en même temps de fixer les brassards s'écartèrent respectueusement de quelques pas. « Au moins tu as capturé Clodas de Kimark !» poursuivit le suzerain. « Adresse-le-moi immédiatement, je te le rachète. J'ai des comptes à lui demander. » Anaro de Traval n'eut pas l'air ravi qu'on lui soustrait aussi vite son prisonnier, mais il ne chercha même pas à négocier le prix de la rançon. Pendant qu'il ordonnait à ses écuyers qu'on lui dépêche son captif, Ganelon s'enquérait d'une voix coupante. « Où est Domnal ? Je ne le vois pas parmi vous. »« Il est toujours sur le pré, » répondit Lanval. « Il tente de prendre le camp du dedans. » « Eh bien, j'ai au moins un fils qui ne démérite pas. Et il faut que ce soit un bâtard !» Le prince ducal essuya la remontrance sans ciller. En ayant à l'esprit l'exploit qu'il avait été à un doigt de réussir au cours du pas d'armes, la rebuffade me parut injuste et plutôt dangereuse pour celui qui l'avait proférée. C'était à croire que le suzerain cherchait à se brouiller avec tous ses héritiers légitimes. L'attitude de Lanval me sembla tout aussi singulière. J'eus l'impression qu'il avait reçu cette brimade avec moins de sang-froid que d'indifférence. « C'est bien Domnal qui a pris Blancandin !» enchaîna le duc. « En effet !» confirma le connétable sur un ton assez raide. « Tant pis !»
Nous n'avons pas le temps de l'attendre. Qu'on aille me chercher Andin dans les quartiers du seigneur Douchin. Je réglerai plus tard la question du rachat. »
Plusieurs seigneurs du conseil affichèrent une moue désapprobatrice.
« Vous n'allez quand même pas convoquer Blancandin dans notre comité, » protesta le baron de Maginois. « Le droit de se réconcilier avec son fils n'appartiendrait-il qu'à toi, Échivard ?»
repartit le duc avec humeur.
« Je n'ai pas encore complètement pardonné ses écarts à Dilsin. Mais du moins a-t-il abandonné la sédition. Blancandin s'est obstiné dans l'erreur. Voilà pourquoi je veux l'entendre séance tenante.
N'est-il pas dangereux de l'introduire au cœur même de nos délibérations?
Au moins ce sera instructif. Ce blanc-bec en sait plus que nous tous réunis sur le traquenard où nous sommes tombés. Quel traquenard?
S'exaspéra le connétable.
Ce sont nos forces qui viennent de violer la coutume et d'attaquer Anguzel. Non, Anaro,
répliqua sèchement le suzerain.
Kimark et mes fils rebelles sont les agresseurs. L'assaut du camp du dedans n'est qu'une mesure de représailles. »
Le grand officier, qui avait de plus en plus de mal à garder son calme, ôta ses gantelets avec brusquerie.
« Ganelon, si j'ai commis des erreurs, je suis prêt à les assumer, » grogna-t-il. « Mais de grâce, instruis-nous du péril. À moins d'être promptement justifié, tes décisions vont passer pour une folie. »
Un rictus sinistre tordit la barbe du duc.
« Ce tournoi était un leurre où nous avons donné tête baissée, » gronda-t-il. « Odéhard vient de s'échapper. En fait, elle a fait mieux que cela. Elle a détruit Mondoir pour s'en libérer. Et au même moment, les Artclyde nous attaquent à l'autre bout du duché. Tout cela trahit une stratégie concertée et nous n'avons rien vu venir. » « Comment Odéhard aurait-elle pu s'enfuir ?»
regimba le connétable.
« Elle est doublement surveillée. » Mondoir occupe une position aussi forte qu'un château, et mes hommes tiennent la place. Il faut croire qu'ils la tenaient fort mal. Quant aux barbares, ils ont toujours fait des incursions. C'est peut-être une simple coïncidence. Cette fois, c'est bien plus qu'une incursion,
corrigea Ganelon d'un air sombre.
Nous avons affaire à une armée aussi forte que celle qui a pillé Kelsbruck. Et les barbares n'ont pas seulement franchi la Claye. Ils viennent de prendre Vekinsberg.
La nouvelle coupa la chic au grand seigneur. Cesarino lui-même manifesta une stupéfaction non feinte. La chute de Vekinsberg, si elle était confirmée, rebattait complètement les cartes. Même si je n'avais jamais mis les pieds dans ce coin du duché, je ne me représentais que trop le revers que pareille défaite infligeait aux Bromalois. Sans être aussi opulente que Longomore, Vekinsberg représentait une place clé pour Bromel. C'était le port qui contrôlait l'estuaire de la Claye. À la fois porte d'entrée pour le commerce des marches les plus éloignées et verrou protégeant la côte contre les raids ouromans. Non seulement cette catastrophe ébranlait le duché, mais aussi les comtés de Kimark et de Brockmel. Plus contrariant pour nous autres, les Tchoudaliens, cette défaite nuisait à notre commerce et remettait en question toute la stratégie du Podestat. Vekinsberg était le port où la flotte de Céleste Faleri aurait dû faire étape avant l'offensive contre l'Ouromagne. D'un seul coup, la base arrière de nos escadres reculait à Longomore et privait nos forces d'une grande partie de leur rayon d'action.
« Est-on certain que la ville est tombée ?»
demanda le connétable avec une pointe d'incrédulité.
« Pour qui me prends-tu ? » s'exaspéra Ganelon. « Je viens d'envoyer une reconnaissance pour m'en assurer. Nous en saurons plus d'ici quelques jours. Il pourrait s'agir d'une fausse rumeur diffusée pour nous pousser à la faute. « Comme transgresser les usages du tournoi ?»
ricana le duc. Il secoua la tête avec dédain.
« L'information reste à vérifier, mais compte tenu de la source, je ne crois pas à une manipulation. »«
Justement, » intervint Échivard,
« quelle est cette source ? Un serviteur que vous méprisez, mes chers parents et loyaux vassaux, et qui m'est pourtant plus utile que vous tous réunis. »
Se tournant vers le chancelier, le suzerain l'interpella.
« Dis-leur ce qu'ils veulent savoir, Magnance. »
Le ministérial, qui se tenait un peu avachi sur son siège, se redressa avec une expression étonnée. Ses atours somptueux étaient froissés, et je lui trouvais très mauvaise mine, les yeux encore plus caves que d'ordinaire.
« Vraiment, Votre Altesse, ne préférez-vous pas exposer par vous-même ce que vous jugez utile de révéler ?»
« Point de fausse pudeur entre nous, Magnance.
Tout le monde ici, y compris nos invités tchoudaliens, sait quel office tu remplis auprès de moi. Parle sans rien celer, mais va à l'essentiel.
Il sera fait selon votre bon plaisir, monseigneur.
Malgré la correction de la formule, le ton du chancelier trahissait un mélange de lassitude et de réticence. Quant à l'attitude des grands seigneurs bromalois, elle suggérait les préventions qu'ils éprouvaient pour le ministérial. Mais ils ne l'en écoutèrent pas moins avec attention, quoiqu'elle fût peut-être soupçonneuse.
C'est un peu fortuitement que ces mauvaises nouvelles sont remontées jusqu'à moi, parut presque s'excuser Diatchekrimène. Tout a commencé par un incident assez inquiétant. La nuit dernière, un espion s'est introduit dans le pavillon ducal. L'affirmation fit sensation au sein du conseil.
Un espion dans l'entourage de leurs altesses ? S'écria le baron de Maginois. Mais comment est-ce possible ? Ces quartiers sont étroitement gardés.
Je pense que l'intrus a facilement déjoué cette surveillance, répondit le chancelier. Car il ne s'agissait pas d'une personne à proprement parler, mais d'un animal apprivoisé, une sorte de limier de petite taille, peut-être une belette ou un chat, dressé comme un chien de chasse, ou un émerillon, non pour traquer les proies, mais pour éventer les secrets.
Mais les chiens du duc, objecta le connétable.
C'est là le plus inquiétant. Pas plus qu'il n'a trompé ma veille, l'indésirable n'a échappé au flair des chiens de garde. Cela ne l'a nullement arrêté. Il a réussi à les soumettre par la peur. Sans accorder d'importance aux mots incrédules que ses paroles suscitaient, Diatchekrimène esquissa un geste fataliste. Malheureusement, cette incursion a eu lieu aux petites heures de la nuit. Je dormais. Épuisé par le voyage, les préparatifs du tournoi, l'intendance de l'offensive. Quand j'ai été réveillé par mes auxiliaires, il était déjà trop tard. L'intrus venait de s'éclipser, ne laissant derrière lui que quelques traces subtiles. J'ai aussitôt fait appel à mes serviteurs pour remonter ses empreintes. Elles les ont entraînées sur une piste incroyablement longue, contournée et ancienne. En fait, je crois que j'ai été mystifié, ce qui n'a fait que renforcer mes alarmes. Derrière le petit espion se dissimule quelqu'un qui maîtrise un art remarquablement élaboré.
Mais quel rapport avec Vikingsburg ? Intervint Cesarino.
J'y arrive, votre seigneurie, répondit le chancelier. Comprenant que la piste principale s'égarait, j'ai élargi le champ de mes recherches. J'ai d'abord eu recours à des formules générales pour préciser la nature du péril. Ces augures m'ont donné des présages vagues, peut-être sans rapport avec l'intrusion, que j'ai ensuite affiné en utilisant des procédures plus spécifiques. Les signes m'orientaient vers Damodéard et la vallée de la Claie. C'est en approfondissant dans ces directions que j'ai eu la révélation des deux catastrophes, l'évasion de la ci-devant duchesse et la chute de Vikingsburg. Anaro de Traval accueillit ce discours par un reniflement sceptique.
« Ganelon, tu ne vas pas me dire que tes décisions n'ont été gouvernées que par ces songes. »«
Ce que vous appelez des songes sont des pronostics précis, établis par la stricte observance des traditions oraculaires, » rétorqua Diatchekrimène avec plus de tranchant qu'à l'ordinaire. « J'ai vu l'incendie de Mondoir par pyromancie et allomancie. » Mon foyer m'a montré les brasiers qui ont consumé le sanctuaire. La chute de Vikingsburg m'a été révélée par hydromancie et lécanomancie. L'huile, les pierres et l'eau m'ont dévoilé les berges qui se reflètent dans la Claie à son estuaire.
Magnance et ses élèves m'annoncent régulièrement des événements qui sont confirmés par la suite, reprit le duc. Tu auras toutes les raisons de chercher à vérifier ce qui se passe dans ton fief, Anaro, mais je suis prêt à parier que tes émissaires croiseront le messager chargé de t'apprendre la ruine de Mondoir. En tout cas, nous n'avons plus le temps d'attendre des témoignages oraux ou écrits. Nous avons été joués. C'est maintenant qu'il faut réagir.
Mais pourquoi attaquer Kimark avant la fin du tournoi ? Protesta Lanval. Nous avions l'avantage. Nous étions sur le point de prendre Lindinas.
Parce que la partie ne se joue plus selon ses règles, rétorqua froidement Ganelon. Il regarda son fils aîné avec une expression incisive. « Nous sommes bien plus que des chevaliers, Lanval, » remontra-t-il. « Je suis le duc souverain. Tu le seras un jour. Le sang royal de Léomance coule dans nos veines. Nous ne sommes pas infaillibles, mais lorsque nous donnons des signes de faiblesse, nous devons toujours les compenser, quel qu'en soit le prix. Sans quoi, notre dignité sera foulée aux pieds. » Et le duché s'effondrera comme le royaume s'est écroulé jadis. Il faut toujours colmater les brèches, être plus rusé, frapper plus fort, par tous les moyens. Cela importe bien plus que l'honneur, car l'honneur ne suffira pas à préserver nos campagnes, à défendre nos villes, ni à maintenir l'ordre. Vous alliez gagner le tournoi de l'immortel? Et alors? Crois-tu vraiment qu'Odéhard, à peine évadé, serait revenu se constituer prisonnière? En Guzel et Blancandin, vous aurez concédé le prix du tournoi tout en s'excusant de ce fâcheux contretemps, la fuite de leurs complices. Et nous serions passés pour d'admirables imbéciles! Mais le bon droit serait resté de notre côté. Le bon droit n'est rien sans la force ni l'habileté. Depuis le procès d'Odéhard, notre bon droit est remis en question. Nous avons la force. Aurions-nous revendiqué la victoire dans ce jeu de dupes, nous serions passés pour malhabiles. J'ai repris l'initiative. J'ai décidé de sacrifier l'honneur pour sauver notre crédit politique. Dans ce cas, il faut vaincre Anguzel sans tarder, déduisit le connétable d'un air morose. Mais ce sera difficile. La noblesse y rechignera. Voilà pourquoi j'ai envoyé les milices bourgeoises donner l'assaut, rétorqua le duc. Elles ont moins de scrupules à transgresser le code chevaleresque. Mais parviendront-elles à l'emporter sans appui? Pour ce que j'en ai vu, elles se heurtent à une solide résistance. Ganelon accueillit la remarque avec froideur. « Dans le fond, peu importe le résultat de cet assaut, » répondit-il. « L'essentiel est d'avoir repris la main. Bien sûr, la capture d'Anguzel me mettrait en position de force, mais grâce à toi, Anaro, je tiens déjà son fils. » Je tiens donc aussi le père. Et je ne veux pas détruire Kimark. Pas encore, en tout cas. J'aurais trop besoin de son concours pour reprendre Vekinsberg. Nous devrons rapidement négocier avec Anguzel. L'attaque de son campement, en somme, n'est qu'une entrée en matière pour des pourparlers à visage découvert. Sur ces mots, le duc se tourna vers Cesarino. À propos de pourparlers, seigneur Razikari, lui lança-t-il. J'ai plus que jamais l'usage des renforts tchoudaliens. Nos plans viennent de changer. La flotte de la République nous aidera-t-elle à reprendre Vekinsberg? Dans sa splendide armure de tournoi, le patrice paraissait déjà équipé pour cette guerre. Pourtant, moi qui fréquentais le brillant damoiseau depuis quelques années, je saisis bien l'hésitation dans son expression. Un embarras discret, mais peut-être plus troublant que l'humiliation d'avoir été désarçonné au premier choc dans la mêlée. Tout à coup, Ganelon bouleversait complètement les termes de l'alliance passée avec le Podestat. Nos galères ne seraient plus chargées de fournir un soutien auxiliaire à la chevauchée ducale, mais risquaient de se retrouver jetés en fer de lance dans l'offensive contre un des ports les plus puissamment fortifiés de la côte. Si l'aventure tournait mal, nos pertes seraient sévères et leurs répercussions au Sénat considérables. La République se discréditerait en vous mesurant son appui, éluda habilement le patrice. Je vais envoyer séance tenante un message à l'amiral Faleri. Il avisera selon les directives qui lui parviendront. Ganelon agréa du chef. Mais le regard perçant qu'il lança au jeune ambassadeur lui signifia que ne lui avait pas échappé le caractère un peu fuyant du propos. Que faisons-nous d'Odéhard? Reprit le connétable. À supposer qu'elle se soit réellement évadée, elle représente un danger pour nos arrières. Mieux vaut la rattraper avant qu'elle ne s'empare d'une ville. Le chancelier secoua la tête avec scepticisme. Bourgmestre et échevin risquent de lui opposer des portes closes, objecta-t-il. Les bourgeois craindront trop les troubles pour épouser sa cause. Dame Odéhard doit d'ailleurs s'en douter. Elle cherchera l'appui de la noblesse plutôt que celui des villes. Dans ce cas, peut-être cherchera-t-elle refuge dans sa famille.
poursuivit Anaro de Traval en se tournant vers le baron de Maginois. L'élégant échivard fit mine de ne pas avoir entendu la menace sous-jacente. Il ne s'était pas moins rembruni, probablement conscient que, dans le conflit sur le point de déchirer le duché, il risquait de passer pour un traître aux yeux des deux parties. « Je ne peux pas répondre de la loyauté de toute ma parenté », admit-il à regret. « Je doute cependant qu'Odéhard se rende en personne sur nos terres. Il lui faudrait descendre la basse vallée du Vernobre ou traverser la Landevièce, deux régions fort peuplées du duché. Ce voyage l'exposerait dangereusement. J'incline à croire qu'elle nous adressera un émissaire, non qu'elle regagnera nos fiefs. Dans ce cas, elle risque plutôt de se réfugier à Vers, supposa le connétable. Le voyage est plus difficile en longeant le piémont du Chevêchin, mais la contrée est peu habitée. Son déplacement y passera probablement inaperçu. Et Vers lui offrira une solide place forte depuis laquelle elle pourra en appeler à ses partisans dans tout le duché, compléta le chancelier d'un air soucieux. Puisque vous prétendez avoir découvert son évasion, ne pouvez-vous voir son point de chute ? Lui demanda le connétable avec un à-propos un peu mordant. Le ministérial lui décocha un œil noir. Mes ressources ne sont point inépuisables, et il est plaisant de voir qu'on les sollicite si légèrement pour pallier les insuffisances d'autrui, lâcha-t-il sur un ton venimeux. Autrui ? Releva le connétable. J'ai un nom suffisamment illustre pour que vous le prononciez, fût-ce pour en dire du mal. Assez, vous deux, intervint sèchement le duc. J'ai déjà trop de problèmes sur les bras pour tolérer des querelles de personnes. Magnans, est-ce que tu peux remonter jusqu'à Odéhard ?
Je peux essayer, mais je ne jure de rien,
soupira Diatchekrimen. Vous me demandez de chercher une aiguille dans une botte de foin, alors que j'ai déjà consommé une grande partie de mes prestiges. En outre, si la dame atteint Vers, elle se soustraira à mes dons. Le bosquet du desséché est trop dangereux à sonder, et le château lui-même renferme encore quelques charmes séculaires qui ne sont pas exempts de périls. Je possède certes des espions sur place, mais cela fait un moment qu'ils n'ont plus donné signe de vie. De toute façon, il faudrait 2 ou 3 jours de délai avant que je ne reçoive un message de leur part. Se détournant avec dédain du chancelier, Anaro de Traval s'adressa de rechef au suzerain. Je peux rassembler tout de suite une escouade rapide et galoper vers le Vernobre. J'aurai peut-être encore une chance d'intercepter Odéhard avant qu'elle se soit mise à l'abri. Le duc refusa aussitôt d'un signe de tête. Non, dit-il. Nous ne savons ni la route qu'elle a prise, ni même sa destination. La situation est trop grave pour se fier à des coups de fortune. Si Odéhard parvient à se retrancher à Vers, nous aurons le plus grand mal à l'en déloger. C'est vrai, mais dans ce cas, elle est probablement escortée par Méléagan. Pour l'instant, je ne veux pas que mon connétable croise le fer avec l'un de mes fils. Au moment où nous sommes menacés par un début d'invasion, pareil affrontement aurait un écho désastreux. Ne dispersons pas nos forces. Tu vas laisser Odéhard s'en tirer à si bon compte ? Je n'ai pas le choix. Et à terme, cela redorera sans doute mon blason. Que l'intrigante s'agite, qu'elle complote contre moi, qu'elle débauche certains de mes vassaux. Pendant une guerre contre l'Ouromagne, ses manœuvres séditieuses la discréditeront. Il faudra bien sûr assurer nos arrières, mais si je concentre mes efforts contre l'envahisseur, je garderai la loyauté des villes et de la majeure partie de la noblesse. Quand nous aurons repris Vikingsburg, et je l'espère conquis du territoire sur la rive gauche de la Claye, alors nous pourrons nous retourner contre la félane. » Pendant cet échange, les rumeurs issues de la foule autour du pavillon ducal avaient progressivement monté de plusieurs tons. Huées, injures et grondements hostiles s'étaient rapprochés au point de pousser les membres du conseil à hausser le ton. Un écuyer finit par annoncer que les prisonniers étaient arrivés. « Qu'on me les amène !» ordonna Ganelon d'un air sinistre. Le chancelier haussa un sourcil perplexe. Votre Altesse, intervint-il, ne serait-il pas plus opportun de les entendre séparément ?
Je n'ai pas le temps de les confronter à leurs contradictions, rétorqua Ganelon. Et toi non plus, Magnans. De toute façon, nous savons qu'ils mentent. Je veux juste les voir ensemble pour vérifier qui a l'ascendant dans cette ligue et trouver par quel moyen la rompre au plus vite. Blancandin de Bromel fut introduit le premier, encadré par deux sergents du Caux, mais aussi escorté par Ancelin Leclerc. Sans doute l'écuyer du grand bâtard avait-il été chargé de garder cette prise prestigieuse, et rechignait-il à s'en défaire sans l'accord de son maître. Le jeune Bromel se présentait dans un équipage lamentable. Certes, il ne paraissait pas gravement blessé, mais il avait été complètement dépouillé de l'armure et du gambison, et même du juste au corps enfilé sous le harnois. Il n'était plus vêtu que de chausses crottées, sans souliers, et d'une chemise déchirée. Un joli cocard et quelques hématomes abîmaient son minois princier. Il avait perdu la prestance difficilement gagnée la veille sur le pré. Introduit dans cette noble société, où les hauts hommes étaient magnifiés par la parure ou grandis par l'armure, il avait la piteuse allure d'un freluquet qui vient d'essuyer une bonne correction. Il était en train d'apprendre les choses de la vie, si toutefois son père se montrait disposé à lui laisser le temps d'en tirer les leçons. Il fallait cependant lui reconnaître un certain mérite. Même humilié et tabassé, il essayait de sauver la face. Le petit Blancandin s'efforçait de rester très droit et défiant, avec ce courage tremblant des gamins qui refusent de reconnaître leur sottise. Bien qu'il ait fait son entrée en boitillant, Claudas de Quimarc avait une toute autre dégaine. D'abord, il portait toujours l'armure. Il faut dire qu'elle ne valait plus grand-chose tant elle avait été martelée. Cottes d'armes déchiquetées, spalières arrachées, brassards faussés, cuirasses gondolées et même percées en plusieurs endroits. C'était à se demander où le gaillard puisait encore la force de tenir debout. Hormis une lèvre tuméfiée, il arborait une gueule à peu près indemne et plus arrogante que jamais. Il nous adressa le sourire du beau joueur qui concède sa défaite sans reconnaître avoir démérité. Pas la moindre peur dans son expression. Plutôt l'insolence polie du puissant qui affronte l'orage en attendant de reprendre la main. Captif au milieu de ses ennemis, ce lascar-là me parut aussi dangereux que lorsqu'il ferraillait brutalement sur le pré. Le duc fit peser sur eux sa prunelle froide, sans prononcer une parole. Son fils se raidit pour ne pas détourner le regard. Claudas ébaucha un salut un peu raide, probablement gêné par ses blessures et son harnois cabossé. « Compliment, mon cousin, » dit-il. « Vous avez pris l'avantage même si Lindinas n'est pas encore tombé. » Sans lui répondre directement, Ganelon désigna les deux prisonniers d'un geste. « Pourquoi sont-ils encore libres de leurs mouvements ? » releva-t-il. « Qu'on les enchaîne !»« C'est nous traiter sans égard !» protesta tranquillement le fils du comte. « Que faites-vous de la courtoisie ?»« Et tes arbalétriers, Claudas, étaient-ils courtois ?» gronda le connétable. « Et ce charme qui émoussait nos lames ?»«
Il fallait bien cela pour équilibrer la rencontre !» répliqua le capitaine du dedans d'un air badin. Vous m'êtes tombé dessus à 5-1.
Des écuyers quittèrent la tente pour porter l'ordre du duc.
Blancandin ne put s'empêcher de se frotter nerveusement un poignet.
Tu as raison d'avoir peur, Andin. Parce que tu as motif à te réjouir, enchaîna son père d'un air sinistre. Félicitations, vous m'avez bien joué. Votre foi ne valant plus rien, je ne puis vous détenir sur parole. Vous me contraignez donc à vous traiter comme des traîtres.
Je ne ferai que changer de cage, marmonna Blancandin. Je commence à avoir l'habitude. Après m'avoir retenu dans les cachots de la principauté du Sacre, vous m'enfermerez dans ceux du duché.
Tout cela pour un tournoi, n'est-ce pas excessif ?
Objecta Claudas sur le ton de la conversation.
Nous vous avons peut-être un peu froissé, mon cousin. Mais enfin, ce n'est qu'une bataille pour rire. C'est d'ailleurs bien mal récompensé la vaillance de votre fils. Si vous craignez qu'il ne puisse régler sa rançon, rassurez-vous, mon père se fera un devoir de la verser en même temps que la mienne. »
Le duc consulta du regard son chancelier. Diatchekrimen esquissa un signe affirmatif. Ganelon lâcha alors sur un ton vibrant de colère.
« Vous pouvez cesser de feindre. Vos manœuvres ont porté leurs fruits. Odéhard s'est évadé. »
Blancandin ne put dissimuler un sursaut de joie. Quant à Claudas, il ébaucha un sourire appréciateur, comme s'il était heureusement surpris par la nouvelle.
« Au même moment, les Ouromans franchissaient la claie !» poursuivit le duc. « Ils viennent de prendre Vikingsberg !»
L'allégresse du jeune prince tourna à l'effarement, tandis que l'expression du fils du comte ne variait guère.
« Veckinsberg ?» bredouilla Blancandin. « Qu'est-ce que Veckinsberg vient faire dans la querelle ?»«
Demande-le donc à ton complice !»
cracha Ganelon. « De toute évidence, il le sait mieux que toi !»«
Oh, pas de conclusion hâtive, mon cousin !» protesta négligemment Claudas. « Certes, la nouvelle ne me surprend qu'à moitié. Pour autant, cela ne signifie pas que j'y ai mis la main. »
Toute l'attention du conseil se concentra sur le capitaine. Même Blancandin lui lança un coup d'œil incertain.
« Ton maudit père et toi, vous vous êtes bien moqué de mes fils !»
gronda le suzerain. « C'était une autre façon de m'atteindre, n'est-ce pas ? Utiliser les sentiments de ces béjaunes pour me donner le change et dissimuler vos vrais plans.
Hé là, comme vous y allez, mon cousin ! Je comprends bien le parti que vous auriez à gagner en me donnant le mauvais rôle, mais c'est me chausser de bottes beaucoup trop grandes. Vous raconterez, certes, ce que vous voudrez pour vous venger de moi, mais est-ce vous rendre service que de vous aveugler sur les raisons de vos revers ?
Ose me dire que tu n'as pas conspiré contre moi, et nous reprendrons cette conversation quand tu seras cloué à un chevalet !»
« Je n'irai pas jusque-là, » concéda Claudas avec un sourire en coin. « Mais je ne revendiquerai pas pour autant la responsabilité de tous vos déboires. »«
Il dit la vérité !»
lâcha Blancandin sur un ton de défi.
« Je n'ai appris qu'avant-hier à mes cousins qui marquent le projet d'évasion de madame ma mère. »
Le duc foudroya son fils cadet du regard.
« Dans ce cas, à quoi rimait ce tournoi ? »
aboya-t-il.
« Eh bien, à l'origine, ce n'était qu'un tournoi, » persifla Claudas.
« Je vous accorde cependant que le jeu n'était pas complètement dénué d'arrière-pensée.
C'est aussi ce que j'ai cru, jusqu'à ce que je sois rentré en bromelle, »
enchaîna Blancandin.
« Mais quand Méléagan m'a instruit de son projet de vous tromper pour délivrer madame ma mère, j'y ai adhéré avec enthousiasme. Je suis heureux d'apprendre que l'entreprise a réussi, et je suis prêt à en répondre devant n'importe quel cour, sauf la vôtre. Je la récuse. Vous avez perdu toute autorité en la matière. En tout cas, ne cherchez pas à vous voiler la face, mon seigneur, mon père. Les capitaines de cette révolte sont bien vos fils, et non nos cousins. »
Ganelon lui opposa un rire dur et blessant.
« Tu ne manques pas de courage, Andin. Mais est-ce que tu peux être naïf ? Tu t'es fait manœuvrer par tout le monde et tu es prêt à revendiquer hautement tous les méfaits où on t'a entraîné. Es-tu également prêt à avouer que tu as livré Veckinsberg ? Bien sûr que non. La guerre contre l'Ouromagne n'a rien à voir. Au contraire, elle a tout à voir avec notre querelle. Ce tournoi à Lindinas a été conçu pour m'entraver au moment de l'offensive sur la Claye. Je ne serais pas venu briser des lances contre vous, Veckinsberg ne serait pas tombé. Mais toi, Andin, le petit bachelier nostalgique des robes maternelles, tu n'as pas prévu tout ceci. Tu étais trop absorbé par ta rancune contre ma personne et par un amour que ton intrigante de mère s'est ingéniée à dévoyer. Oui, tu es responsable de ce désordre, Andin. Mais tu n'en es pas l'instigateur. »
Pointant du doigt Claudas, le duc poursuivit un ton plus bas.
« Les instigateurs, c'est vous, mes chers cousins, et mes chers loyaux vassaux, qui ne connaissez que trop bien les marches barbares. L'idée vient forcément de vous. Profitez de la désunion dans la famille ducale. Jeter de l'huile sur le feu et faire diversion pour me mettre en difficulté. Pourquoi irais-je chercher l'ennemi avec Veckinsberg ? Il est ici. »
Le charme qui rend invulnérable au fer est une magie païenne. Intervint doucement Magnans Diachekrimen. Seigneur Claudas, d'où tenez-vous ce tour ? Le prisonnier de Marc conserva une posture pleine d'assurance.
Vous avez raison, chancelier, c'est un charme de Runoïa, admit-il sans embâge. Il doit d'ailleurs avoir perdu l'essentiel de sa vertu dans le combat de ce jour. Ce talisman m'a été offert par Ferbasak ap Indulf.
Tu avoues donc ta trahison,
grinça le duc.
Je n'avoue rien du tout, mon cousin. Cette babiole est un cadeau diplomatique offert au cours d'un échange de gestes de bonne volonté. J'avais pour ma part cédé 2 chevaux de prix au roi Hartclyde, dont je crains d'ailleurs qu'il n'ait pas fait très bon usage. Je l'ai rencontré il y a 1 an, dans le cadre de pourparlers. Nous ne sommes pas en très bons termes aujourd'hui, vous et moi,
Et pourtant, nous tenons cette conversation. J'ai fait sensiblement de même avec Ferbassac. Il faut bien que de temps en temps deux ennemis se parlent.
L'ennemi de mon ennemi, bien sûr, ricana Ganelon. Tu m'annonces tranquillement que tu conspires depuis un an.
Vous accusez votre âge, mon cousin, car vous m'entendez de travers.
Depuis quand les Ouromans font-ils des largesses ?
Apostropha le connétable.
Surtout un clan aussi féroce que les Arclyde. Ils n'ont jamais été prodigues que de destruction et de pillage.
Et pourtant, il faut bien prendre bouche avec ces brutes, rétorqua tranquillement le fils du comte, ne serait-ce que pour embaucher les soudoyers qui renforcent vos troupes.
Allez-vous également condamner Domnall Fitzganlon ?
Des écuyers introduisirent dans le pavillon deux sergents porteurs de fers et de chaînes. Claudas leur jeta un coup d'œil dédaigneux et poursuivit avec assurance.
J'ai rencontré le roi Hartclyde l'an dernier pour négocier une trêve au nom de mon père. Ferbassac était en train de préparer sa guerre contre les Hoer et recrutait des alliés parmi les clans Isenvirta et Slaxbroder. Pour attirer le plus de guerriers possible, il voulait s'assurer que nous n'attaquerions pas leur territoire pendant qu'ils auraient le dos tourné. Bien sûr, au début, il ne m'a pas présenté les choses ainsi. Il a commencé par me menacer et par exiger un tribut pour épargner le comté. Je lui ai répondu sur le même ton. Cela lui a plu. Et il a alors proposé un échange d'otages. Bien sûr, j'ai refusé que les Kimarques se retrouvent ainsi liés. Au final, nous avons banqueté ensemble et nous nous sommes mutuellement offert des cadeaux. Je ne me fiais pas à lui, il ne me faisait pas confiance. Mais comme nous nous étions bien compris, nous avons fait mine de conclure la paix, parce que sur le moment, cela nous arrangeait tous les deux.
Et un an plus tard, Ferbassac s'empare de Vikingsberg, gronda Ganelon. Fâcheuse coïncidence.
Croyez ce qu'il vous plaira, mon cousin. Mais le roi Hartclyde n'aura pas eu besoin de moi pour se renseigner sur nos projets, ni pour mener à bien son offensive. Les mercenaires que nous engageons sont presque autant d'agents de l'ennemi. Vos préparatifs d'invasion ont été longs et voyants. Or, il est dangereux de sous-estimer l'Hartclyde. Ferbassac a probablement appris vos projets en même temps que la noblesse bromaloise. Comme les autres chefs barbares, c'est une brute impitoyable. Mais il ne serait pas à la tête de son clan s'il n'était pas plus rusé que ses congénères. Il parle en outre notre langue. Il connaît le duché comme s'il y avait voyagé. Et il possède un rayonnement réel, souvent vulgaire, parfois raffiné, qui lui attache quantité de fidélité. Ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. À mon sens, il a joué son va-tout quand il a compris qu'il serait pris entre le marteau et l'enclume. Il a préféré attaquer avant de se retrouver sur la défensive sur tous les fronts, contre Bromel et les Hoer. Et comme Brancovan, affaibli par la bataille du Pain Tordu, a eu besoin de plus de temps que nous pour se mettre en ordre de bataille, Ferbassac a d'abord frappé la menace la plus immédiate.
Une ville du Cal, non un fief de Kimark,
souligna Échivard de Maginois sur un ton insinuant. Il aura choisi Vikingsberg pour sa position plus que pour ses couleurs, rétorqua Claudas. En contrôlant cette place, il entrave nos offensives terrestres et navales.
Nos offensives,
releva le duc avec un accent coupant. L'alliance de Kimark avec les Arclyde serait une folie, soutint Claudas avec naturel. Les barbares se retourneraient contre le comté sitôt le duché en difficulté. Et puis, ne sommes-nous pas toujours vos vassaux, votre Altesse ducale ?
Voilà qui fait plaisir à entendre, persifla Ganelon.
À moins, bien sûr, que mon ouïe de vieillard ne me joue encore un tour.
Dites-moi, mon cher cousin, suis-je devenu si sourd que je ne vous ai pas entendu me parler de cette rencontre avec Ferbassac depuis l'an dernier ?
Monseigneur le comte avait prévu de tout vous expliquer au cours du banquet donné en votre honneur à l'issue des commensailles. Malheureusement, un empêchement nous a privés de votre compagnie. Le duc se contint visiblement pour ne pas prendre la mouche. Au bout de quelques instants, il coula un sourire sarcastique à son prisonnier.
Par bonheur, nous avons à présent l'occasion de rattraper ce fâcheux contretemps, gronda-t-il. « C'est moi qui vous invite à ma table, cher cousin.
Elle sera plus chiche que la vôtre. Mais ne dit-on pas que le jeûne ouvre l'esprit? Nous aurons tout loisir de poursuivre cette conversation. »
Et puis d'un geste autoritaire, il ordonna qu'on mette les prisonniers hors de sa vue. Il n'était pas sorti que Ganelon lançait avec hargne
« Dépouillez Claudas, je le veux en chemise, comme mon imbécile de fils. Qu'on les enchaîne, qu'on les encage, qu'on les expose publiquement sur une charrette !»
Les membres de son conseil affichèrent des mots surprises ou réservés. Le procédé est infamant, procéda Échivard de Maginois. Il risque de déplaire.
Ce sont des traîtres, gronda Ganelon. Je les traite comme tels.
Le chancelier s'agita sur son siège, la figure troublée.
Votre Altesse, vous ne pensez quand même pas jusqu'à aller...
Hélas non, Magnans,
répondit le duc d'un air sombre. Il secoua la tête avec rage.
Je dois sévir, mais si je vais trop loin aujourd'hui, la justice sera pire que le mal. Andin reste mon fils. Il est hors de question que j'ai son sang sur les mains. Claudas est un présomptueux, mais il sait que la guerre sera sans merci avec Anguzel si je l'envoie au supplice. Les circonstances ne me sont pas favorables. Je dois porter mes efforts ailleurs.
À l'extérieur du pavillon, s'élevait à nouveau une rumeur hostile alors qu'on devait entraver publiquement les deux prisonniers de haut parage. Ganelon esquissa un geste de dégoût.
« Quelle mauvaise fortune !» grommela-t-il. « Au moment où nous aurions dû nous serrer les coudes. »
Sur une impulsion, il se tourna vers le connétable.
« Anaro, rassemble tes gens et rejoins le combat !» commanda-t-il. « Si le comte n'est pas capturé, suspends l'assaut. »
Prendre ce campement sans tenir Anguzel ne servira qu'à alourdir nos troupes de butin et à souffler sur les braises. Je veux que la noblesse de Kimark me craigne, pas qu'elle me haïsse. »
Le grand officier acquiesça d'un signe de tête et sortit rapidement, ordonnant à ses écuyers de faire appel au banneret de Traval. Le duc s'assit lourdement sur un fauteuil qui craqua sous le poids du grand seigneur et de son armure.
« Il va falloir organiser l'évacuation de tous les inutiles, » soupira-t-il. « Nous devons congédier les dames, la clergie et leurs gens pour nous tenir prêts à marcher sur Vekinsberg. »
La duchesse regagnera Carwell avec toi, Magnans. Vous organiserez le ravitaillement de Lost et vous garderez un œil sur Odéhard et Méléagan. Mais vous ne partirez que lorsque j'aurai trouvé un arrangement avec Anguzel. Un départ précipité de mon épouse apparaîtrait comme un signe de faiblesse et un désaveu de ma part. Le suzerain s'adressa alors au baron du Trèfle, qui s'était tenu en retrait pendant tout l'entretien.
« C'est aujourd'hui l'occasion de commencer à racheter tes fautes, Rinfroi, » dit-il. « Puisque tu as toujours su louvoyer entre nous, je t'envoie ouvrir les négociations avec Anguzel. Tu iras le trouver dès que les combats auront pris fin. Rapporte-lui que dans notre intérêt mutuel, nous devons mettre les choses à plat au plus vite. S'il refuse l'entrevue, je me paierai sur le comté des pertes de Vekinsberg. Débrouille-toi. » Mais il faut que je le rencontre au plus vite. »
Pour finir, Ganelon parut se rappeler de notre présence.
« Par ailleurs, je donne également congé à leurs excellences, » nous dit-il. « Le seigneur Razikari pourra ainsi escorter sa cousine jusqu'à Carwell et de là rejoindre la flotte. Il vous sera plus facile d'envoyer vos lettres vers Tchoudalia par la mer que par voie de terre.